Vous écoutez RJB et il est midi 15. RJB Info, le journal Alexandre Michler, bonjour.
Bonjour. La vaccination sera bel et bien obligatoire en France pour le personnel soignant. Le pass sanitaire souhaité par le président Macron a été validé hier soir par le Parlement. Caroline Toussaint nous dira dans quelques instants ce que ce vote implique concrètement pour les Français. Cap sur l'Andalousie dans ce journal. Direction le soleil, nous irons à la rencontre de deux prévotois qui ont tout quitté pour réaliser leur rêve, vivre durant une année de leur passion pour la musique et la danse. Cynthia et David Lehmann nous diront ce qui les a motivés à franchir le pas. Vladimir Petkovic va-t-il quitter l'équipe de Suisse de football? La rumeur ne cesse de grandir. Plusieurs médias annoncent ce matin qu'il serait prêt à signer un contrat avec les Girondins de Bordeaux. L'association suisse de football ne commente pas, mais confirme qu'il y a bien des contacts entre le club français et le sélectionneur helvétique. On fera le point tout à l'heure. La météo très changeante cette semaine. À nouveau, il faudra compter tour à tour avec des nuages, de la pluie, des orages, mais aussi des périodes ensoleillées. Le mercure, lui, ne devrait pas dépasser la barre des 24 degrés. Le pass sanitaire a donc été définitivement validé en France. Le Parlement a trouvé un accord hier dans la soirée. Son usage sera donc bel et bien élargi, comme Emmanuel Macron l'a souhaité, pour lutter contre le coronavirus. Outre l'obligation vaccinale pour les soignants à partir du 15 septembre, le pass sanitaire promet de changer pas mal de petites choses en France, Caroline Toussaint.
Le pass sanitaire va devenir le nouvel accessoire à la mode en France. Plus question de sortir sans lui, sous peine de se retrouver refoulé d'un musée, de la bibliothèque ou encore de la terrasse d'un café. À partir du 1er août, donc, il faudra montrer le précieux sésame dans de nombreux lieux publics et certains transports en commun. Un pass comme une preuve sanitaire que vous n'êtes pas infecté par le coronavirus puisque vacciné, testé négatif ou guéri depuis moins de 6 mois. Ça s'applique aux Français. Mais pas que. Toute personne sur le territoire français devra montrer patte blanche ou plutôt passe blanc. Bon. Et pour ce qui est d'aller faire ses courses en France alors, parce que c'est la question que beaucoup de monde se pose. Emmanuel Macron annonçait le 12 juillet dernier vouloir imposer le pass sanitaire pour entrer dans un grand centre commercial. Au final, c'est un peu moins drastique. Ce sont les préfets qui décideront ou non de l'imposer selon les régions et le taux d'incidence du coronavirus. Philippe Bas, sénateur de la Manche, expliquait cette décision sur BFM TV.
Peut-être qu'il faut décider du port du masque, par exemple. Il faut bien sûr que les distances de sécurité soient conservées, mais dans les parties communes des grands complexes commerciaux, nous avons considéré qu'on ne pouvait pas, pour leur accès, imposer le pass sanitaire.
La loi sur le pass sanitaire s'applique à tous à partir de 12 ans, avec une tolérance pour les jeunes jusqu'à 17 ans. Jusqu'au 30 septembre, pas besoin de montrer le pass, un délai qui est destiné à leur permettre de se faire vacciner.
Merci Caroline Toussaint. Et contrairement à ce qui avait été envisagé, notez que les salariés des secteurs concernés par le pass sanitaire ne seront pas licenciés s'ils n'en disposent pas. Cette loi sera effective jusqu'au 15 novembre. Le dispositif ne pourra se poursuivre qu'à avec un nouveau vote du Parlement. Vous retrouvez plus de précisions sur notre site internet. Et notez encore que le certificat Covid suisse est valable dans tous les pays de l'Union européenne. C'est donc aussi le cas pour la France. Le niveau du lac de Bienne continue à baisser. La navigation sera à nouveau autorisée sur les eaux, du moins en partie. La préfecture de Bienne vient de l'annoncer. Les bateaux non motorisés comme les paddles ou les canoës ainsi que les écoles de formation nautique moteur et voile pourront naviguer dès demain. Il y aura toutefois certaines zones d'interdiction. C'est le cas notamment du canal de la Thielle jusqu'à l'embouchure du lac de Neuchâtel, du canal de Nidoburen et de l'Arre en direction de Soleure. Tout claquer pour vivre une année de musique, de rue et de danse, c'est le pari osé d'un jeune couple de prévotois. Cynthia et David Lehmann laissent leur maison, leur petit confort et surtout leur job pour rejoindre l'Andalousie. Ils ambitionnent de parcourir l'Espagne au gré de leurs envies et de leurs rencontres et partager leur passion pour la musique, l'histoire médiévale ou encore la culture orientale. Dans le coffre de leur voiture, on retrouve notamment des instruments d'époque, vielle à roue et sitol. Mais comment se décide-t-on à partir pour une pareille aventure? Écoutez Cynthia et David Lehmann.
J'ai fait une année Erasmus, moi, en ce qui me concerne. Ils m'ont envoyé à Grenade. Bon, je voulais retrouver un peu, je suis moitié espagnol. Et c'était tellement simple que en fait, ça m'a déjà fait une année sabbatique. Et du coup, j'en ai parlé à ma femme et puis ça lui a donné envie. De même qu'elle, elle veut aussi apprendre l'espagnol. Avant de me connaître et ma partie espagnole et mon langage, elle était déjà amoureuse de l'Espagne. Donc, puis ensuite, on a chacun des passions artistiques. Et on s'est dit qu'on pouvait joindre le fait qu'elle puisse apprendre l'espagnol, ce qu'elle voulait depuis longtemps. Et puis faire un spectacle de rue en fait qui joigne nos deux côtés artistiques, donc elle la danse et puis moi surtout la musique et l'univers médiéval.
Vous êtes enseignant, vous êtes infirmière, tout claqué pour partir comme ça, un petit peu, alors à l'improviste entre guillemets, ça fait peur un peu quand même?
Alors je dirais pas que ça fait peur. Dans le sens où on claque pas tout comme ça sans y avoir réfléchi. Et surtout, moi, en ce qui me concerne, effectivement, j'ai quitté mon poste, donc je devrais retrouver du travail quand on revient au mois d'août l'année prochaine. Mais en tant qu'infirmière, c'est vrai que voilà, on a quand même une certaine facilité à trouver du travail. Donc pour ça, c'est un métier qui est vraiment idéal. Et puis en ce qui concerne mon mari David, donc lui, il a vraiment une année sabbatique. Donc il retrouve son poste tel qu'actuel à la rentrée scolaire 2022. Ce qui nous permet d'avoir quand même une sécurité au niveau professionnel. Mais c'est vrai que voilà, l'organisation n'est pas vraiment organisée. Donc il y a aussi ce côté-là où on se lance un petit peu dans l'inconnu.
Richard Cœur de Lion, il chantait ça en prison parce qu'il n'y a personne qui voulait payer pour qu'il sorte.
Il y a des choses où on appréhende quand même un petit peu, mais on verra comment ça va se passer. On prend chaque chose comme elle vient. Et puis c'est ça qui est chouette aussi, de pouvoir prendre le temps pendant une année de prendre chaque chose telle qu'elle vient, se concentrer sur le présent. C'est aussi ça qui est magnifique, parce qu'on a des vies où on est tellement à 200 à l'heure tout le temps, que là, de vraiment pouvoir se poser, prendre le temps de faire les choses, de prendre la vie comme elle vient, c'est aussi quelque chose qui est magnifique à expérimenter.
Alors, Cynthia et David Lehmann qui répondaient à Olivier Zano. Un large coup de filet international dans le milieu du trafic d'êtres humains a été mené entre le 5 et le 9 juillet, coordonné par Interpol. L'opération Libertera a mobilisé les forces de l'ordre de 47 pays. Elle a permis l'arrestation de 286 suspects et le démantèlement de 22 groupes criminels. La Suisse ne fait pas partie des pays concernés, selon le communiqué d'Interpol. Le très attendu rapport des experts climat de l'ONU est crucial pour le succès de la conférence climat COP26 en novembre. C'est ce qu'a insisté ce matin le patron de l'organisation Météo Mondiale, Peter Italas, à l'ouverture des négociations pour l'adoption de ce texte de référence. Les 6 dernières semaines seulement nous ont apporté une série d'événements dévastateurs, chaleur, inondations, incendies, sécheresses et plus. Depuis des années, nous avions prévenu que c'était possible et que tout cela devait arriver, a souligné de son côté le responsable climat de l'ONU. Enfin, le cours du Bitcoin a bondi ce matin, atteignant des niveaux plus vus depuis un mois, alors que les géants de la tech semblent à nouveau s'intéresser à la volatile crypto-monnaie. Vers 11h10, le Bitcoin gagnait 11% à 38 289 $. Un rebond qui intervient alors que le patron de Tesla, Elon Musk, a affirmé que le groupe pourrait à nouveau accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement.
Et à l'écoute d'RJB, il est midi 24.
Sport. Ce n'était encore qu'une rumeur il y a quelques temps et elle semble se concrétiser. L'entraîneur de l'équipe de Suisse de football, Vladimir Petkovic, a demandé à être libéré par l'Association Suisse de football. Une information de l'équipe et du Blick ce matin. Le sélectionneur de la Nati serait en passe de signer avec le club de Bordeaux, Olivier Zano.
Oui, une nouvelle qui tombe quelques jours seulement après l'Euro où la Suisse a tenu tout le pays en haleine. C'est d'ailleurs sûrement pas une coïncidence si un club français s'intéresse désormais à Vladimir Petkovic. Après la victoire folle de la Nati contre la France. Souvenez-vous, menée 3-1, les Suisses avaient égalisé dans les arrêts de jeu pour ensuite éliminer les champions du monde en 8e finale de la compétition. Selon le quotidien L'Équipe, les Girondins de Bordeaux ont pris contact avec Vladimir Petkovic il y a un peu moins de 10 jours et les deux parties seraient tombées d'accord sur un contrat de 3 ans, une information également relayée par le Blick. Mais l'Association Suisse de football laissera-t-elle partir son sélectionneur? La question reste encore ouverte. Il est possible qu'elle n'a n'accepte qu'en échange d'une compensation financière. De son côté, l'ASF a publié un tweet pour clarifier la situation ce matin. Elle précise que le sélectionneur possède un contrat courant jusqu'à la fin 2022 qui sera automatiquement prolongé en cas de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. L'ASF ne souhaite pas communiquer plus en détail sur ce sujet, même si elle confirme que des discussions sont en cours entre Bordeaux et Petkovic.
Merci Olivier Zano. Et du côté féminin, en football toujours, la Lituanie, la Roumanie et la Croatie seront sur la route de l'équipe de Suisse. Les Suissesses qui joueront ces qualifications pour la Coupe du Monde 2023 en septembre et octobre à Thun et à Zurich. L'association suisse de football l'indique ce matin. Et puis, notez encore ce deuxième match amical pour le FC Bienne. Le néo-promu en Promotion League affrontera ce soir le FC Brighton Rhein à 18h30 à Lille. Le club de football bernois militera lui aussi en Promotion League la saison prochaine.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo.
Une deuxième médaille olympique est tombée dans l'escarcelle suisse aujourd'hui à Tokyo après le bronze de Nina Christen à la carabine à air comprimé. Mathias Flückiger a pris la médaille d'argent de la course VTT ce matin. Le VTTiste bernois s'est classé deuxième derrière l'irrésistible britannique Tom Pidcock. L'espagnol David Valero Serrano a pris la troisième place. Il s'est défait dans les derniers mètres de course du champion olympique en titre Nico Schurter qui se retrouve donc chocolat. Le commentaire de notre envoyé spécial à Tokyo, Émilie Mumenthaler.
Mathias Flückiger et Nino Schurter sont parvenus à durcir très vite la course. Ils ont ainsi opéré une sélection impitoyable sur un parcours exigeant. Les deux Suisses sont toutefois tombés sur plus fort avec Tom Pidcock qui se remettait pourtant à peine d'une fracture de la clavicule. Le Britannique a attaqué après la mi-course et seul Mathias Flückiger a pu suivre dans un premier temps avant de craquer pour finalement lui concéder 20 secondes au final. Victorieux ce printemps de la flèche brabançonne sur route, Tom Pidcock, à 21 ans, a fait étalage de sa polyvalence. Les deux premières places scellées, une belle bagarre a eu lieu pour le bronze. Dans un premier temps, entre Nino Schurter, le néo-zélandais Anton Cooper et le français Victor Koretsky. Mais c'est l'espagnol David Valero Serrano, revenu de nulle part dans le cinquième des sept tours, qui a coiffé ce trio sur le poteau. Le tenant du titre grison en tête qui échoue à 8 secondes du podium.
Merci Émilie. Cette course a été marquée par la chute et même l'abandon d'un des favoris, Mathieu Van Der Poel. Belinda Bencic, elle poursuit sa route dans le simple dames du tournoi olympique de tennis, mais pas Victoria Golubic. Belinda Bencic s'est en effet qualifiée sans trop de difficultés pour les huitièmes de finale face à Misaki Doi, 6-2, 6-4. Victoria Golubic a en revanche échoué contre une autre japonaise, Naomi Osaka, 6-3, 6-2. Au prochain tour, Belinda Bencic devra en découdre avec la Tchèque Barbora Krejčíková, récente lauréate du tournoi de Roland-Garros. En canoë à présent, Thomas Koechlins n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale du slalom monoplace. Il s'est classé finalement 13e, une déception pour le canoïste genevois.
Je pense que la préparation était top, je me suis éclaté, tout allait bien. Sur les qualifs, j'ai montré que je pouvais être super rapide, mais à chaque fois, il y avait un problème. Et là, c'est un peu pareil. Sur les demi, il y a presque tout qui va, mais presque. Du coup, je suis sanctionné lourdement.
Vous n'avez pas navigué à votre meilleur niveau aujourd'hui ?
Ouais, clairement. Ouais, c'est tout à fait ça.
C'est les pénalités qui vous coûtent trop cher ?
Ouais, là, j'ai plus 6 avec seulement plus 2, ça passait. Il n'y avait pas à faire grand-chose parce que j'ai pas fait une manche rapide. Et j'étais sûr que si on enlève 2 touches, eh ben, je serais dedans. Mais c'est pas vraiment ce que je retiens là parce que j'étais à côté. Dans un sens, je suis content, je me suis accroché jusqu'en bas, j'ai continué à y croire, mais j'étais quand même un peu à côté.
Un propos recueilli par notre envoyé spécial à Tokyo, Émilie Mumenthaler. Une deuxième défaite en 2 matchs pour Sabrina Jacquet dans le tournoi de badminton. Diminuée par une blessure au mollet gauche, la chaudefonnière s'est inclinée 21-10, 21-14 devant la française Xi Kuefei. Aujourd'hui en match de groupe, elle doit encore disputer un troisième match de poule avec l'objectif de remporter un premier succès dans des JO avant de mettre un terme à sa carrière. Max Studer a lui signé une belle performance en triathlon. Le Soleroy a terminé au au 9e rang aujourd'hui à 1 minute 02 du nouveau champion olympique, le Norvégien Christian Blumenfeld. Le départ du triathlon féminin sera lui donné à 23h30, soit 6h30 du matin à Tokyo. À 39 ans, Nicolas Spierig rêve d'une nouvelle médaille olympique après avoir arraché l'argent à Rio et l'or en 2012 à Londres. Et selon elle, la course se jouera déjà en partie lors de la natation. Nicolas Spierig.
Ce qui a changé chez les femmes, c'est que maintenant, il y a très souvent 6 ou 7 nageuses rapides qui nagent devant et qui par la suite travaillent très bien ensemble sur le vélo. En 2016, ce n'était pas comme ça. Il y avait Gwen Jorgensen qui a très bien couru, mais il n'y avait pas ce petit groupe devant qui nage bien et qui roule bien sur le vélo. C'est la tactique ou le déroulement de la course qui a quelque peu changé.
Voilà, encore deux mots. Beach volley tout d'abord. La paire helvétique formée d'Anouk Vergé-Després et de Johanna Heydrich fera son entrée en lice dans le tournoi féminin. Ce sera cet après-midi vers 14h. Et puis, le tournoi de basketball, c'est la deuxième chose, a été marqué non seulement par la défaite des États-Unis contre la France hier, mais aussi par une impressionnante démonstration d'un joueur slovène. Auteur de 48 points, Luka Doncic a été prodigieux contre l'Argentine. Il a ainsi permis à la Slovénie d'écraser l'Argentine 118-100. Voilà, vous écoutez RJB, la fin de ce rendez-vous d'information. Il est 12h31, très bel après-midi à tous.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo.
Très bel après-midi à vous également, Alexandre Michler. On prend des nouvelles du ciel. On a une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est une naissance et puis après, il faudra se dire au revoir. Et dans votre menu météo, si vous êtes dans les hauteurs, vous l'avez vu, la pluie a commencé à faire son office. Et cette pluie devrait continuer cet après-midi par des averses assez régulières qui devraient normalement déborder sur le Seeland. Côté température, c'est pas fou, mais ça reste agréable. Mais l'ambiance sera lourde, hein, d'après les experts de Météo News. Le mercure devrait atteindre 22 degrés du côté du vallon de Saint-Imier et de la vallée de Tavannes. 23 degrés à Moutier, maximum 24 degrés autour du lac de Bienne. Demain, c'est encore une fois un ciel couvert qui nous attend, en tout cas sur les reliefs. En dessous, on pourra profiter du soleil, surtout en matinée. Le mercure devrait rester assez stable par rapport à aujourd'hui. C'est à partir de jeudi que nous devrions retrouver des normes estivales, même si ça va redescendre avant dimanche. Et c'est peut-être à partir de dimanche que nous devrions retrouver enfin des conditions estivales et très chaudes.